Même époque. Valneige, 22 octobre 1800. Au nid dans la montagne où mon âme s'abrite. Me voici donc rentré pour jamais dans mon gîte, comme le passereau sans aile pour courir, qui dans un trou du mur s'abrite pour mourir. Oh, d'un peu de repos que mon âme pressée, il devançait de loin mes pas par ma pensée. Que l'ombre des grands monts se noyant dans les cieux, quand je fus à leurs pieds, fut amie à mes yeux. Comme je respirais en montant leurs collines, les vents harmonieux exhalaient des ravines. Ces vents qui du mélèze aux rameaux dentelés sortent comme un soupir à demi consolé. Que du premier sapin l'écorce me fut douce, que je m'étendis las et triste sur la mousse, que j'y collai ma bouche en silence et longtemps, n'entendant que les coups en ma tente battant. Et là, ce orageux de mes mille pensées, en larmes plus qu'en mots, sur les herbes versées. Combien de fois je bus dans le creux de ma main un peu d'eau du torrent qui borde le chemin. Que souvent mon oreille à ses flots attentives crut reconnaître un cri dans ses bonds sur sa rive, et d'un frisson glacé me ridant tout entier m'arrêta palpitant sur le bord du sentier. Enfin le soir je vis noircir entre les cimes des arbres mes murs gris au revers des abîmes. Les villageois épars sur leurs meules de foin du geste et du regard me saluaient de loin. L'œil fixé sur mon toit, sans bruit et sans fumée, j'approchais le cœur gros de ma porte fermée. Là, quand mon pied poudreux heurta mon pauvre seuil, un tendre hurlement fut mon unique accueil. Hélas, c'était mon chien, couché sous ma fenêtre, qu'avait maigri 3 mois, le souci de son maître. Marthe filait assise en haut sur le palier. Son fuseau de sa main roula sur l'escalier. Elle leva sur moi son regard sans mot dire, et comme si son œil dans mon cœur eût pu lire, elle m'ouvrit ma chambre et ne me parla pas. Le chien seul en jappant s'élança sur mes pas, bondit autour de moi de joie et de tendresse, se roula sur mes pieds enchaîné de caresses, léchant mes mains, mordant mon habit, mon soulier, sautant du seuil au lit, de la chaise au foyer, fêtant toute la chambre et semblant au mur même, par ses bonds et ses cris, annoncer ce qu'il aime. Puis, sur mon sac poudreux, à mes pieds étendus, me couva d'un regard dans le mien suspendu. Me pardonnerez-vous, vous qui n'avez sur terre pas même cet ami du pauvre solitaire? Mais ce regard si doux, si triste de mon chien, fit monter de mon cœur des larmes dans le mien. J'entourai de mes bras son cou gonflé de joie, des gouttes de mes yeux roulèrent sur sa soie. Ô pauvre seul ami, viens, lui dis-je, aimons-nous. Car partout où Dieu mit de cœur, s'aimer est doux. Hélas, rentrer tout seul dans sa maison déserte, sans voir à votre approche une fenêtre ouverte, sans qu'en apercevant son toit à l'horizon, on dise « Mon retour réjouit ma maison, une sœur, des amis, une femme, une mère, compte de loin les pas qui me restent à faire, et dans quelques moments, ému de mon retour, ces murs s'animeront pour m'abriter d'amour. Rentrer seul dans la cour, se glisser en silence, sans qu'aucun devant de vous autre pas connu s'avance, sans que de tant d'échos qui parlaient autrefois, un seul au moins tressaille à votre voix. Sans que le sentiment amer qui vous inonde déborde hors de vous dans un seul être au monde, excepté dans le cœur du vieux chien du foyer, que le bruit de vos pas errants fait aboyer, n'avoir que ce seul cœur à l'unisson du vôtre, où ce que vous sentez se reflète en un autre, que cet œil qui vous voit partir ou demeurer, qui sans savoir vos pleurs vous regarde pleurer, que cet œil sur la terre où votre œil se repose, à qui si vous manquiez manquerait quelque chose, ah, c'est affreux peut-être, eh bien c'est encore doux. Ô mon chien, Dieu seul sait la distance entre nous, seul il sait quel degré de l'échelle de l'être sépare ton instinct de l'âme de ton maître. Mais seul il sait aussi par quel secret rapport tu vis de son regard et tu meurs de sa mort, et par quelle pitié pour nos cœurs il te donne pour aimer encore ceux que n'aime plus personne. Aussi, pauvre animal, quoiqu'à terre couché, jamais d'un sot dédain mon pied ne t'a touché. Jamais d'un mot brutal contristant ta tendresse, mon cœur n'a repoussé ta touchante caresse. Mais toujours, ah, toujours en toi, j'ai respecté de ton maître et du mien l'ineffable bonté, comme on doit respecter sa moindre créature, frère à quelque degré qu'a voulu la nature. Ah, mon pauvre Fido, quand tes yeux sur les miens le silence comprend nos muets entretiens, quand au bord de mon lit épiant si je veille, un seul souffle inégal de mon sein te réveille, que lisant ma tristesse en mes yeux obscurcis, dans les plis de mon front tu cherches mes soucis, et que, pour la distraire, attirant ma pensée, tu mords plus tendrement ma main vers toi baissée, que comme un clair miroir, ma joie ou mon chagrin rend ton œil fraternel inquiet ou serein, que l'âme en toi se lève avec tant d'évidence, et que l'amour encore passe l'intelligence. Non, tu n'es pas du cœur la vaine illusion, du sentiment humain une dérision, un corps organisé qu'anime une caresse, automate trompeur de vie et de tendresse. Non, quand ce sentiment s'éteindra dans tes yeux, il se ranimera dans je ne sais quel cieux, de ce qui s'aima tant la tendre sympathie, homme ou plante jamais ne me ranéantit. Dieu la brise un instant, mais pour la réunir, son sein est assez grand pour nous tous contenir. Oui, nous nous aimerons comme nous nous aimâmes, qu'importe à ses regards des instincts ou des âmes. Partout où l'amitié consacre un cœur aimant, partout où la nature allume un sentiment, Dieu n'éteindra pas plus sa divine étincelle dans l'étoile des nuits dont la splendeur ruisselle, que dans l'humble regard de ce tendre épagneul qui conduisait l'aveugle et meurt sur son cercueil. Ô viens, dernier ami, que mon pas réjouisse, ne crains pas que de toi devant Dieu je rougisse. Lèche mes yeux mouillés, mets ton cœur près du mien, et seul à nous aimer, aimons-nous, pauvre chien. Valneige, 9 novembre 1800, un soir d'hiver. Oh, que l'année est lente et que le jour s'ennuie pendant ces mois d'hiver où la sonore pluie, par l'ouragan fouetté et battant les vitraux, du verre ruisselant obscurcit les carreaux. Que l'horizon, voilé par les brumes glacées, ainsi que mes regards rétrécit mes pensées, et que je n'entends rien, et que le vent noir du nord, sifflant par chaque fente un gémissant accord, des cascades d'hiver, la chute monotone, l'avalanche en lambeaux qui bondit et qui tonne, et quelques gloussements de poules dans la cour, et Marthe à son rouet qui file tout le jour. Alors, ah, c'est alors que mon âme isolée, par tous les éléments dans mon sein refoulé, comme un foyer sans air se dévorant en moi, veut se fuir elle-même et cherche autour de soi, et sans l'ennui de vivre, entrer par chaque port, et regarde bien loin si quelqu'un l'aime encore, s'il est un seul vivant qui, par quelque lien, m'adresse un souvenir et se rattache au mien. Et le voyant partout qu'indifférence étombe dans son vide sans bord, de tout son poids retombe. Tel, par la caravane au désert oublié, l'homme cherche de l'œil la trace d'un seul pied, et regarde aussi loin que peut porter sa vue, s'il voit à l'horizon quelque point qui remue, quelque tente qui fume ou quelque palmier vert qui rompt à son regard la ligne du désert. Mais qui, n'apercevant que des sables arides, dont le vent du Simoun a balouré les rides, sans espoir qu'aucun pied vienne le secourir, ferme les yeux au jour et s'assied pour mourir. Puis, comme un cœur brisé qu'un mot touchant ranime, et criant vers le ciel du fond de mon abîme, je jette à Dieu mon âme et je me dis: en lui, j'ai les eaux de ma soif, la fin de mon ennui. J'ai l'ami dont le cœur de tout amour abonde, la famille immortelle et l'invisible monde. Et je prie, et je pleure, et j'espère, et je sens l'eau couler dans mon cœur aride. Et je descends dans mon jardin trempé par les froides ondées, visiter un moment mes plantes inondées. Je regarde à mes pieds si les bourgeons en pleurs ont de mes personnages épanoui les fleurs. Je relève sous l'eau les tiges abattues. Je secoue au soleil les cœurs de mes laitues. J'appelle par leur nom mes arbres en chemin. Je touche avec amour leurs branches de la main. Comme de vieux amis de cœur, je les aborde. Car dans l'isolement mon âme, qui déborde de ce besoin d'aimer, sa vie et son tourment au monde végétal s'unit par sentiment. Et si Dieu réduisait les plantes en poussière, j'embrasserais le sol et j'aimerais la pierre. Je caresse en rentrant sur le mur de ma cour l'aile de mes pigeons tout frissonnant d'amour, où je passe et repasse une main sur la soie de mon chien, dont le poil se hérisse de joie. Où s'il vient un rayon de blanc soleil, j'entends gazouiller mes oiseaux qui rêvent le printemps. Et répandant ainsi mon âme à ceux qui m'aiment, sur mon isolement je me trompe moi-même, et l'abîme caché de mon ennui profond se comble à la surface, et le vide est au fond. 8 décembre 1800. Le pauvre colporteur est mort la nuit dernière. Nul ne voulait donner de planche pour sa bière. Le forgeron lui-même a refusé son clou. C'est un juif, disait-il, venu de je ne sais d'où, un ennemi du Dieu que notre terre adore, et qui, s'il revenait, l'outragerait encore. Son corps infecterait un cadavre chrétien. Aux crevasses du roc, trottant comme un chien. La croix ne doit point d'ombre à celui qui la nie. Et ce n'est qu'à nos os que la terre est bénie. Et la femme du juif et ses petits-enfants implorent vainement la pitié des passants. Et disputant le corps au dégoût populaire, se jetaient éplorés entre eux et le suaire. Du scandale inhumain, averti par hasard, j'accourus. J'écartais la foule du regard. Je tendis mes deux mains aux enfants, à la femme. Je fis honte aux chrétiens de leur dureté d'âme. Et rougissant pour eux, pour qu'on l'ensevelît, allez, dis-je, et prenez les planches de mon lit. Puis, pour leur enseigner un peu de tolérance, la première vertu de l'humaine ignorance, et comment le soleil est Dieu luisant pour tous, et comment ses bienfaits s'épanchent malgré nous, je leur ai raconté la simple et courte histoire qui dans mon cœur alors tomba de ma mémoire. Au temps où les humains se cherchaient un séjour, des hommes près d'une île s'établirent un jour. Amoureux et jaloux du cours qui les abreuve, ces hommes ignorants firent un dieu du fleuve. Il donnera la vie à ceux qui le boiront, dit-il. Et c'est nous et les autres mourrons. Et lorsque, par hasard, d'errantes caravanes voulaient en puiser l'eau dans leurs autres profanes, ils les chassaient du bord avec un bras jaloux, et se disaient entre eux, l'eau du ciel n'est qu'à nous. On ne vit qu'en nos champs, on ne voit que nous sommes. Ceux-là ne boivent pas, ne sont pas des hommes. Or, l'ange du Seigneur, entendant ces discours, disait que les pensées de ces hommes sont courtes. Et pour leur enseigner à leurs dépens que l'onde du ciel qui la répand coule pour tout le monde, il amena de loin un peuple et ses chameaux qui voulaient en passant le Nil boire à ses eaux. Et pendant que du Dieu les défenseurs stupides interdisaient son onde à leurs rivaux avides, l'ange du ciel fermé rouvrant le réservoir, sur l'une et l'autre année, un torrent fit pleuvoir, et le peuple étranger but au lac des tempêtes. Et l'ange dit à l'autre, insensé que vous êtes, la nuit abreuve au loin ce que vous refusez, et sa source est plus haut que celle où vous puisez. Allez voir l'univers, chaque race a son fleuve qui descend de ses bois, la féconde et l'abreuve, et ces mille torrents viennent du même lieu, et tout onde se puise à la grâce de Dieu. Il la verse à son heure et selon sa mesure, en fleuve, en ruisseau, plus bourbeuse ou plus pure. Si les vôtres mortels sont plus clairs et plus doux, gardez-vous d'être fiers et vous êtes encore jaloux. Sachez que vous avez des frères sur la terre, que celui qui n'a pas ce qui vous désaltère a la pluie en hiver, la rosée en été. Que Dieu lui-même puise au lac de sa bonté, et qu'il donne ici-bas sa goutte à tout le monde, car tout peuple est son peuple, et tout onde est son onde. Cette religion qui nous enorgueillit, c'est ce fleuve fait Dieu dont on venge lit. Vous croyez posséder seule les clartés divines, vous croyez qu'il fait nuit derrière vos collines. Qu'à votre jour, celui qui ne s'éclaire pas marche aveugle et sans ciel dans l'ombre du trépas. Or, sachez que Dieu seul, source de la lumière, la répand sur toute âme et sur toute paupière, que chaque homme a son jour, chaque homme sa clarté, chaque rayon d'en haut sa part de vérité, et que lui seul, il sait combien de jours ou d'ombre contient pour ses enfants ce rayon toujours sombre. Si le vôtre est plus pur et plus tiède à vos yeux, marchez à sa lueur en rendant grâce aux cieux, et n'interposez pas entre l'astre et vos frères l'ombre de vos orgueils, la main de vos colères, pour faire à leur regard luire la vérité. Réfléchissez son jour dans votre charité. Car l'ange qui de Dieu viendra faire l'épreuve juge le culte au cœur comme à l'onde le fleuve. L'arc-en-ciel que Dieu peint est de toute couleur, mais l'éclat du rayon se juge à sa chaleur. Cette morale en drame a retourné leur âme, et l'on se disputait les enfants et la femme. Ici manquaient plusieurs feuilles du manuscrit. Les laboureurs, au hameau de Valneige, 16 mai 1801. Quelquefois, dès l'aurore, après le sacrifice, ma Bible sous mon bras, quand le ciel est propice, je quitte mon église et mes murs jusqu'au soir, et je vais par les champs m'égarer ou m'asseoir, sans guide, sans chemin, marchant à l'aventure, comme un livre au hasard feuilletant la nature, mais partout recueilli, car j'y trouve en tout lieu quelques fragments écrits du vaste nom de Dieu. Oh, qui peut lire ainsi les pages du grand livre ne doit ni se lasser, ni se plaindre de vivre. La tiède attraction des rayons d'un ciel chaud sur les monts ce matin m'avait mené plus haut. J'atteignis le sommet d'une rude colline qu'un lac baigne à sa base et qu'un glacier domine, et dont les flamboisées aux penchants adoucis sont tachées de sapins par des prés éclaircis. Tout en haut, seulement, des bouquets circulaires de châtaigniers croulants, de chênes séculaires, découpant sur le ciel leurs dômes dentelés, imitent les vieux murs des donjons crénelés, rendent le ciel plus bleu par leur contraste sombre et couvrent à leurs pieds quelques champs de leur ombre. On voit, en se penchant, luire entre leurs rameaux le lac dont les rayons font scintiller les eaux, et glisser sous le vent la barque à l'aile blanche comme une aile d'oiseau passant de branche en branche. Mais plus près, leurs longs bras sur l'abîme penché et de l'humide nuit goutte à goutte étanché, laissaient pendre leurs feuilles et pleuvoir leurs rosées sur une étroite enceinte au levant exposée et que d'autres troncs noirs enfermaient dans leur sein comme un lac de culture en son étroit bassin. Je pouvais adosser le coude à leurs racines, tout voir sans être vu jusqu'au fond des ravines. Déjà, tout près de moi, j'entendais par moments monter des pas, des voix et des mugissements. C'était le paysan de la haute chaumine qui venait labourer son morceau de colline, avec son soc plaintif traîné par ses bœufs blancs et son mulet portant sa femme et ses enfants. Et je pus, en lisant ma Bible ou la nature, voir tout le jour la scène et l'écrire à mesure. Sous mon crayon distrait, le feuillet devint noir. Ô nature, on t'adore encore dans ton miroir. Laissant souffler ses bœufs, le jeune homme s'appuie debout au tronc d'un chêne et de sa main essuie la sueur du sentier sur son front mâle et doux. La femme et les enfants, tout petits, à genoux, devant les bœufs privés, baissant leurs cornes à terre, leur cassent des rejets de frêne et de fougères, et jettent devant eux, en verdoyant monceau, les feuilles que leurs mains échaumont de des rameaux. Il ruminent en paix pendant que l'ombre obscure, sous le soleil montant, se replie à mesure, et laissant de la glèbe attiédir la froideur, vient mourir et border les pieds du laboureur. Il rattache le joug sous la forte courroie, aux cornes qu'en pesant sa main robuste ploie. Les enfants vont cueillir des rameaux découpés, des gouttes de rosée encore toutes trempées, aux joues avec la feuille en vert festeur les noues, et que sur leur front voilé les fiers taureaux secouent, pour que leurs flancs qui bat et leur poitrail poudreux portent sous le soleil un peu d'ombre avec eux. Aux joues de bois poli, le timon s'équilibre. Sous les cieux gémissants, le soc se dresse et vibre. L'homme saisit le manche et, sous le coin tranchant, pour ouvrir le sillon, le guide au bout du champ. Ô travail, sainte loi du monde, ton mystère va s'accomplir. Pour rendre la glèbe féconde, sueur, il faut l'amollir. L'homme, enfant et fruit de la terre, ouvre les flancs de cette mer où germent les fruits et les fleurs. Comme l'enfant mord la mamelle pour que le lait monte et ruisselle du sein de sa nourrice en pleurs. La terre qui se fend sous le soc qu'elle aiguise, en tronçons palpitants s'amoncelle et se brise, et tout en s'entr'ouvrant fume comme une chair qui se fend et palpite et fume sous le fer. En de monceaux poudreux les ailes la renversent. Ses racines à nu, ses herbes se dispersent. Ses reptiles, ses vers, par le soc déterré, se tordent sur son sein en tronçons torturés. L'homme les foule aux pieds et, secouant le manche, enfonce plus avant le glaive qui les tranche. Le timon plonge et tremble et déchire ses doigts. La femme parle au bœuf du geste et de la voix. Les animaux, courbés sur leurs jarrets qui plient, pèsent de tout leur front sur le joug qui les lie. Comme un cœur généreux, leurs flancs battent d'ardeur. Ils font bondir le sol jusqu'en sa profondeur. L'homme presse ses pas, la femme suit à peine. Tous au bout du sillon arrivent hors d'haleine. Ils s'arrêtent, le bœuf rumine et les enfants chassent avec la main les mouches de leurs flancs. Il est ouvert, il fume encore sur le sol ce profond dessein. Ô terre, tu vis tout éclore du premier sillon de ton sein. Il fut un Éden sans culture, mais il semble que la nature, cherchant à l'homme un aiguillon, ait enfoui pour lui sur la terre sa destinée et son mystère caché dans son premier sillon. Ô le premier jour où la plaine s'entr'ouvrant sous sa forte main but la sainte sueur humaine et reçut en dépôt le grain, pour voir la noble créature et des dieux servir la nature, le ciel ouvert où la s'emplit, les fibres du sol palpitèrent, et les anges surpris chantèrent le second prodige accompli. Et les hommes ravis lièrent au timon les bœufs accouplés, et les coteaux multiplièrent les grands peuples comme les blés. Et les villes, ruches trop pleines, débordèrent au sein des plaines, et les vaisseaux, grands alcyons, comme à leur nid les hirondelles, portèrent sur leurs larges ailes leur nourriture aux nations. Et pour consacrer l'héritage du champ labouré par leurs mains, les bornes firent le partage de la terre entre les humains. Et l'homme, à tous les droits propices, trouva dans son cœur la justice, et grava le code en tout lieu, et pour consacrer ses lois mêmes, s'élevant à la loi suprême, chercha le juge et trouva Dieu. Et la famille, enracinée sur le coteau qu'elle a planté, refleurit d'année en année collective immortalité, et sous sa tutelle chérie naquit l'amour de la patrie, glande de peuple au soleil germé, semence de force et de gloire, qui n'est que la sainte mémoire du champ par ses pères semé. Et les temples de l'invisible sortirent des flancs du rocher, et par une échelle insensible l'homme de Dieu put s'approcher. Et les prières qui soupirent et les vertus qu'elles inspirent coulèrent du cœur des mortels. Dieu dans l'ombre admira sa gloire et pour en garder la mémoire reçut les pies sur ses autels. Un moment suspendu, les voilà qui reprennent un sillon parallèle et sans fin vont et viennent, du bout d'un champ à l'autre, ainsi qu'un tisserand, dont la main tout le jour sur son métier courant, jette et retire à soi le lin qui se dévide, et joint le fil au fil sur sa trame rapide. La sonore vallée est pleine de leurs voix, le merle bleu s'enfuit en sifflant dans les bois, et du chêne à ce bruit les feuilles ébranlées laisse tomber sur eux les gouttes distillées. Cependant le soleil darde à nu. Le grillon semble crier de feu sur le dos du sillon. Je vois flotter, courir sur la glèbe embrasée l'atmosphère palpable où nage la rosée qui rejaillit du sol et qui bout dans le jour comme une haleine en feu de la gueule d'un four. Des bœufs vers le sillon, le joug plus lourd s'affaisse. L'homme passe la main sur son front, sa voix baisse, le sang glissant vacille entre ses doigts nerveux. La sueur de la femme imbibe les cheveux. Ils arrêtent le char à moitié de sa course. Sur les flancs d'une roche, ils vont lécher la source, et la lèvre collée au granit humecté savoure sa fraîcheur et son humidité. Oh, qu'ils boivent dans cette goutte l'oubli des pas qu'il faut marcher. Seigneur, que chacun sur sa route trouve son eau dans le rocher, que ta grâce les désaltère. Tous ceux qui marchent sur la terre ont soif à quelque heure du jour. Fais à leurs lèvres desséchées jaillir de ta source cachée la goutte de paix et d'amour. Ah, tous ont cette eau de leur âme, aux uns c'est d'un sort triomphant, à ceux-ci le cœur d'une femme, à ceux-là le front d'un enfant, à d'autres l'amitié secrète ou les extases du prophète. Chaque ruche d'homme a son miel, ah, livre à leur soif assouvie cette eau des sources de la vie. Mais ma source à moi n'est qu'au ciel. L'eau d'ici-bas n'a d'amertume aux lèvres qui burent l'amour, et de la soif qui me consume long de les pas dans ce séjour. Elle n'est que dans ma pensée, vers mon Dieu sans cesse élancée, dans quelques sanglots de ma voix, dans ma douceur à la souffrance, et ma goutte à moi d'espérance. C'est dans mes pleurs que je la bois. Mais le milieu du jour au repas les rappelle. Ils couchent sur le sol le fer. L'homme dételle du joug tiède et fumant les bœufs qui vont en paix se coucher loin du soc sous un feuillage épais. La mère et les enfants qu'un peu d'ombre rassemble sur l'herbe autour du père, assis, rompent ensemble et se passent entre eux de la main à la main les fruits, les œufs durcis, le laitage et le pain. Et le chien, regardant le visage du père, suit d'un œil confiant les miettes qu'il espère. Le repas achevé, la mère du berceau qui repose couché dans un sillon nouveau tire un bel enfant nu qui tend ses mains vers elle, l'enlève et, suspendu, l'emporte à sa mamelle, l'endort en le berçant du sein sur ses genoux et s'endort elle-même un bras sur son époux. Et sous le poids du jour, la famille sommeille sur la couche de terre et le chien seul l'éveille. Et les anges de Dieu d'en haut peuvent les voir et les songes du ciel sur leur tête pleuvoir. Oh, dormez sous le vert nuage de feuilles qui couvre ce nid, hommes, femmes, enfants, leur image que la loi d'amour réunit. Ô famille abrégée du monde, instinct qui charme et qui féconde, les fils de l'homme en ce bas lieu, n'est-ce pas toi qui nous rappelle cette parenté fraternelle des hommes dont le Père est Dieu? Foyer d'amour où cette flamme qui circule dans l'univers joint le cœur au cœur, l'âme à l'âme, enchaîne les sexes divers. Tu resserres et tu relis les générations, les vies, dans ton mystérieux lien. Et l'amour qui du ciel émane, des voluptés cultes profanes, devient vertu s'il est le tien. Dieu te garde et te sanctifie. L'homme te confie à la loi et la nature purifie ce qui serait impur sans toi. Sous le toit saint qui te rassemble, les regards, les sommeils ensemble ne souillent plus ta chasteté, et sans qu'aucun limon s'y mêle, la source humaine renouvelle les torrents de l'humanité. Ils ont quitté leur arbre et repris leur journée. Du matin au couchant, l'ombre déjà tournée s'allonge au pied du chêne et sur eux va pleuvoir. Le lac, moins éclatant, se ride au vent du soir. De l'autre bout du champ, le sillon se rapproche. Mais quel son a vibré dans les feuilles? La cloche, comme un soupir des eaux qui s'élèvent du bord, répand dans l'air ému l'imperceptible accord. Et par des mains d'enfant, au hameau balancé, vient donner de si loin son coup à la pensée. C'est l'Angélus qui teinte et rappelle en tout lieu que le matin des jours et le soir sont à Dieu. À ce pieux appel, le laboureur s'arrête. Il se tourne au clocher, il découvre sa tête, joint ses robustes mains d'où tombe l'aiguillon, élève un peu son âme au-dessus du sillon, tandis que les enfants, à genoux, sur la terre, joignent leurs petits doigts dans les mains de leur mère. Prière aux voix surnaturelles qui nous précipitent à genoux, instinct du ciel qui nous rappelle que la patrie est loin de nous, vent qui souffle sur l'âme humaine et de la paupière trop pleine fait déborder l'eau de ses pleurs, comme un vent qui par intervalle fait pleuvoir les eaux virginales du calice incliné des fleurs. Sans toi, que serait cette fange? Un morceau d'un impur limon, où l'homme, après la brute mange les herbes qu'il tend du sillon. Mais par toi, son aile cassée soulève encore sa pensée, pour respirer au vrai séjour, la désaltérer dans sa course, et lui faire boire à sa source l'eau de la vie et de l'amour. Le cœur des mers te soupire, l'air sonore roule ta voix, la lèvre d'enfant te respire, l'oiseau t'écoute au bord des bois. Tu sors de toute la nature comme un mystérieux murmure dont les anges savent le sens, et ce qui souffre et ce qui crie et ce qui chante et ce qui prie n'est qu'un cantique aux mille accents. Ô saint murmure des prières, fais aussi dans mon cœur trop plein, comme des ondes sur des pierres, chanter mes peines dans mon sein. Que le faible bruit de ma vie, en extase intime ravie, s'élève en aspiration et fait que ce cœur que tu brises, instrument des célestes brises, éclate en bénédiction. Un travail est fini, l'autre aussitôt commence. Voilà partout la terre ouverte à la semence. Aux corbeilles de joncs puisant à pleine main, en nuages poudreux, la femme épand le grain. Les enfants, enfonçant les pas dans son ornière, sur sa trace en jouant, ramassent la poussière que de leurs mains étroites ils laissent retomber et que les passereaux viennent leur dérober. Le froment répandu, l'homme attelle la herse, le sillon raboteux, la cahote et la berce. En groupe sur ce char, les enfants réunis effacent sous leur poids les sillons aplanis. Le jour tombe et le soir sur les herbes s'essuie, et les vents chauds d'automne amèneront la pluie, et les neiges d'hiver sous leur tiède tapis couvriront d'un manteau de duvet les épis, et les soleils dorés en jauniront les herbes, et les filles des champs viendront nouer les gerbes, et tressant sur leur front les bluets, les pavots, iront danser en chœur autour des tas d'ouveaux, et l'âme le broiera le froment sous les pierres, et choisissant la fleur, la femme des chaumières, levée avant le jour pour battre le levain, de ses petits enfants aura pétri le pain, et les oiseaux du ciel, le chien, le misérable, ramasseront en paix les miettes de la table, et tous béniront Dieu dont les fécondes mains au festin de la terre appelle les humains. C'est ainsi que la Providence sème et cueille l'humanité, Seigneur, cette noble semence qui germe pour l'éternité. Ah, sur les sillons de la vie, que ce pur froment fructifie, dans les vallons de ses douleurs, ô Dieu, verse-lui ta rosée, que l'argile fertilisée germe des hommes et des fleurs. Ici, plusieurs dates perdues. Valneige, juillet 1801. Deux frères aujourd'hui se disputaient un champ dont la borne s'était déplacée en bêchant. Ils ont remis tous deux leur cause à ma parole, et je les ai jugés dans cette parabole. Au premier temps du monde où tout était commun, deux frères comme vous avaient deux champs en un. Comme l'un prenait moins et l'autre davantage, ils vinrent un matin borner leur héritage. Un seul arbre, planté vers le sommet du champ, dominait les sillons du côté du couchant. Un frère à l'autre dit « Oh, l'extrémité de l'ombre, de nos sillons égaux, coupe juste le nombre, que l'ombre nous partage. » Ainsi fut convenu. Or, l'ombre s'allongea quand le soir fut venu, et jusqu'au bout du champ, rampant descendu, fit un seul possesseur de toute l'étendue. Vite, il alla chercher les témoins de la loi et leur dit « Regardez, toute l'ombre est à moi !» Et les juges humains en hommes le jugèrent, et le champ tout entier au seul frère adjugèrent. Et l'autre, par le ciel dépouillé de son bien, accusa le soleil et s'en fut avec rien. L'hiver vint, l'ouragan que la saison déchaîne, s'engouffrant une nuit dans les branches du chêne, et le combattant seul, sans frère et sans appui, le balaya de terre, et son ombre avec lui. Le frère dépouillé, voyant l'autre sans titre, descendant à son tour, alla chercher l'arbitre et dit « Voyez, plus d'ombre, ainsi tout est à moi !» Et le juge, prenant la lettre de la loi, jugea comme le vent et le soleil et l'ombre. Et des sillons du champ, sans égaler le nombre, lui donna l'héritage avec tout son contour. Et tous deux eurent trop ou trop peu tour à tour. Et descendant du champ où la borne ainsi glisse, ils disaient dans leur cœur « Mais où donc est la justice ?» Or un sage, passant par là, les entendit, écouta leur raison en souriant et dit « On vous a mal jugé, mais jugez-vous vous-même. Votre borne flottante est de vos lois l'emblème. La borne des mortels n'est jamais au milieu. Mesurez la colline à la toise de Dieu. Elle n'est, mes amis, dans l'ombre ni la haie, ni dans l'ombre que l'heure ou prolonge ou balaie, ni dans la pierre droite avec ses deux garants que renverse le soc où roulent les torrents, ni dans l'œil des témoins, ni dans la table écrite, ni dans le doigt levé du juge qui limite. La justice est en vous. Que cherchez-vous ailleurs? La borne de vos champs, plantez-la dans vos cœurs. Rien ne déplacera la sienne ni la vôtre. Chacun de vous aura sa part dans l'œil de l'autre. » Les deux frères du sage, écoutant le conseil, ne visèrent plus par l'ombre ou le soleil. Mais dans leur équité plaçant leur confiance, partagèrent leur champ avec leur conscience. Et devant l'invisible et fidèle témoin, nul ne fit son sillon, ni trop près, ni trop loin. Valneige, août 1801. Quelquefois le passant insulte encore le prêtre. J'accepte en bénissant comme mon divin maître, et ce soir, pardonnant au sarcasme moqueur, j'essayais dans ses vers de soulager mon cœur. Peut-être est-il beau quand Rome, reine et mère de l'empire du monde évoquant la chimère, posait son pied d'airain sur la nuque des rois, lançait du Capitole une foudre bénie, et tentait d'allonger sa double tyrannie jusqu'où va l'ombre de la croix. Quand ces pontifes rois, distributeurs du monde, marquaient du doigt les parts sur une map monde, donnaient ou retiraient les royaumes donnés, citaient les fils d'Habsbourg au bon du génicule, et tendaient à baiser la poudre de leurs mules à leurs esclaves couronnés, quand ces pêcheurs, quittant la barque évangélique, tendaient sur l'univers leur filet politique, au lieu d'âmes pêchant des domaines de rois, et pour combler le fisc d'une oisive opulence, jetaient l'or ou le fer dans la sainte balance où Jésus avait mis les poids, lorsque, dans leur palais regorgeant de délices, tout l'or des nations coulait avec leurs vices, que le Tibre, souillé de profanation, s'étonnait de revoir des mains sacerdotales mener le grand triomphe ou d'autres saturnales sur les tombeaux des Scipion. Il était beau, peut-être, avec Pétrarque ou Dante, d'allumer son courroux comme une lampe ardente, de jeter sur l'autel sa sinistre lueur, et du temple avili déchirant les saints voiles, de montrer sa souillure au soleil, aux étoiles, et de crier sur lui « Malheur !» Lorsque du cavalier et la main rude et farouche tourmente un mort d'acier et fait saigner la bouche, L'obéissant coursier peut parfois tressaillir. Quand on souffle longtemps, le charbon sous le vase, l'eau dormante à la fin, comme un cœur qui s'embrase, peut se soulever et bouillir. Alors, quelque péril en aurait quelque audace. Alors, le fer sacré, plus prompt que la menace, cimentait dans le sang le dogme universel, où l'interdit vengeur, ce dieu tonnant de Rome, grondait sur le blasphème, arrachait l'homme à l'homme, maudissait le pain et le sel. Mais aujourd'hui, grand Dieu, que la ville éternelle voit ses morts de désert s'élargir autour d'elle, qu'en pleure elle s'assoit, veuve entre deux tombeaux, que le vent seul, hélas, soulève sa poussière, et que le Tibre nu voit tomber pierre à pierre sa ville morte dans ses eaux, quand les martyrs du Christ, se levant de leur tombe, ont ramené deux fois son peuple aux catacombes, et retrempé ses mains dans son sang répandu, quand l'ire du Seigneur, rude mais salutaire, a courbé du genou sa tête jusqu'à terre pour redresser l'arc détendu, quand deux fois en 10 ans les Gaulois dans la poudre ont par leurs cheveux blancs traîné ces dieux en foudre et mis à nu le temple et l'autel à l'encan, et que de ces vieillards qu'outrage encore la haine, l'un mourut sans tombeau, l'autre possède à peine l'ombre courte du Vatican, quand le monde affranchi nage en paix dans son doute, que la croix du clocher redescend sous la voûte, et que, si nous venons pour prier au saint lieu, on ferme à deux battants les portes de l'église, de peur que des soupirs l'écho ne scandalise ceux qui craignent l'ombre d'un dieu. De l'insulte à nos fronts lancer l'écume amère, ah, c'est noyer l'agneau dans le lait de sa mère, c'est fouetter l'innocent de son crime expié. La malédiction revient sur le prophète, et le trait que l'injure a lancé sur sa tête retombe et lui perce le pied. Viens voir, jeune étranger, viens voir dans ma cabane si mon luxe sacré brille d'un or profane. Tu n'y trouveras rien dans son triste abandon qu'un bâton, un pain noir que le pauvre partage, un livre que j'épelle aux enfants d'un village, un Christ qui n'apprend le pardon. Si pour vos soifs sans eau l'esprit de l'Évangile est un baume enfermé dans un vase d'argile, homme, sans le briser, transvasez la liqueur, collez pieusement la lèvre à l'orifice et recueillez les eaux de ce divin calice goutte à goutte dans votre cœur. Un mendiant trouva des médailles en terre, dans une langue obscure on y lisait « mystère ». Méfrisant les Phygies, il jeta son trésor. « Insensé, lui dit-on, mais quelle erreur est la tienne? Qu'importe l'effigie, ou profane ou chrétienne, ô mendiant, c'était de l'or. » Valneige, 8 août 1801. Et j'instruis les enfants du village, et les heures que je passe avec eux sont pour moi les meilleures. Elles ouvrent le jour et terminent le soir. Oh, par un ciel d'été, qui n'aimerait avoir cette école en plein champ où leur troupe est assise? Il est deux vieux noyés aux portes de l'église, avec ses fondements en terre enracinés, qui penchent leur feuillage et leurs troncs inclinés sur un creux vert de mousse, où dans le caillouetage s'échappe en bouillonnant la source du village, de gros blocs de granit que son nom de poli, blanchi par son écume, interrompent son lit. Sur ce tertre, glissant de colline en colline, l'œil embrasse au matin l'horizon qu'il domine et regarde à travers les branches de noyer les lacs lointains bleuir et la plaine ondoyer. C'est là qu'au jour serein, rassemblés tous, leurs troupes, selon l'âge et le sexe, en désordre se groupent. Les uns au tronc de l'arbre adossés 2 ou 3, les autres garnissant les marches de la croix. Ceux-là sur les rameaux, ceux-ci sur les racines, du noyer qui serpente au milieu des ravines. Quelques-uns sur la tombe et sur les tertres verts, dont les morts du printemps sont déjà recouverts, comme des plaies nouveaux reverdissant sur l'air, ou des épis battus ont germé dans la terre. Cependant, au milieu de ces fils du hameau, ma voix grave se mêle au murmure de l'eau, pendant que leurs brebis broutent l'herbe nouvelle sur la couche des morts, que l'argile hirondelle rase les bords de l'onde, attrapant dans son vol l'insecte qui se joue en rayon sur le sol, et que les passereaux, instruits par l'habitude, enhardis par leur calme et par leur attitude, entourent les enfants et viennent sous leurs mains s'abattre et s'attrouper pour émietter leur pain. Je me pénètre bien de ce sublime rôle que sur ces cœurs d'enfants exerce ma parole. Je me dis que je vais donner à leur esprit l'immortel aliment dont l'ange se nourrit, la vérité de l'homme, un complet héritage qui descend jusqu'à nous de nuage en nuage, flambeau d'un jour plus pur que les traditions passent de main en main aux générations, que je suis un rayon de cette âme éternelle qui réchauffe la terre et qui la renouvelle, l'étincelle de Dieu qui, brillant à son tour dans la nuit de ses cœurs, doit allumer son jour. Et la main sur leur front baissé, je lui demande de préparer mon cœur pour qu'un verbe y descende, d'élever mon esprit à la simplicité de ces esprits d'enfants, aubes de vérité, de mettre assez de jours pour eux dans mes paroles, et de me révéler ces claires paraboles où le maître, abaissé jusqu'au sens des humains, faisait toucher le ciel aux plus petites mains. Puis je pense tout haut pour eux, le cercle écoute, et mon cœur dans leur cœur se verse goutte à goutte. Je ne surcharge pas leur sens et leur esprit du stérile savoir dont l'orgueil se nourrit. Bien plus que leur raison, j'instruis leur conscience. La nature et leurs yeux, c'est toute ma science. Je leur ouvre ce livre et leur montre en tout lieu l'espérance de l'homme et la bonté de Dieu. Pour leur enseigner Dieu, son culte et ses prodiges, je ne leur compte pas ces vulgaires prestiges qui, confondant l'erreur avec la vérité, font d'une foi céleste une crédulité. Honte aux dieux trois fois saints prouvés par l'imposture, son témoin éternel à nous, c'est sa nature. Son témoin éternel à nous, c'est sa raison. Ses yeux sont assez clairs pour y lire son nom. Avec eux, chaque jour, je déchiffre et j'épelle de ce don infini quelques lettres nouvelles. Je leur montre ce Dieu, tantôt dans sa bonté, mûrissant pour l'oiseau le grain qu'il a compté, tantôt dans sa sagesse et dans sa providence, gouvernant sa nature avec tant d'évidence. Tantôt, mais aujourd'hui, c'était dans sa grandeur. La nuit tombait. Des cieux, la sombre profondeur laissait plonger les yeux dans l'espace sans voile, et dans l'air constellé comptait les lits d'étoiles, comme à l'ombre du bord on voit sous les flots clairs la perle et le corail briller au fond des mers. Celles-ci, leur disais-je, avec le ciel sont nées, leur rayon vient à nous sur des millions d'années, des mondes que peut seul peser l'esprit de Dieu. Elles sont les soleils, les centres, le milieu. L'océan de l'éther les absorbe en ses ondes, comme des grains de sable, et chacun de ces mondes est lui-même un milieu pour des mondes pareils. Ayant ainsi que nous leur lune et leur soleil, et voyant comme nous des firmaments sans terme s'élargir devant Dieu sans que rien les renferme, celles-là, décrivant des cercles sans compas, passèrent une nuit, ne repasseront pas. du firmament entier la page intarissable, ne renfermerait pas le chiffre incalculable des siècles qui seront écoulés jusqu'au jour où leur orbite immense aura fermé son tour. Elles suivent la courbe où Dieu les a lancées. L'homme de son néant les suit par ses pensées. Et ceci, mes enfants, suffit pour vous prouver que l'homme est un esprit, puisqu'il peut s'élever de ce point de poussière et des ombres humaines jusqu'à ses cieux sans fond et ses grands phénomènes. Car voyez, mesurez, interrogez vos corps. Pour monter à ces feux, faites tous vos efforts. Vos pieds ne peuvent pas vous porter sur ces ondes. Votre main ne peut pas toucher, peser ces mondes. Dans les replis des cieux, quand ils ont disparu derrière le rideau, votre œil ne les voit plus. Nulle oreille n'entend. Sur la mer infinie de leurs vagues d'éther, l'orageuse harmonie, le souffle de leur vol ne vient pas jusqu'à nous. Sous le dais de la nuit, il vous semble des clous, et l'homme cependant arpente cette voûte. D'avance, à l'avenir, nous écrivons leur route. Nous disons à celui qui n'est pas encore né, quel jour, au point du ciel, tel astre ramené viendra de sa lueur éclairer l'étendue et rendre au firmament son étoile perdue. Et qu'est-ce qui le sait? Et qu'est-ce qui l'écrit? Ce ne sont pas vos sens, enfants, c'est donc l'esprit. C'est donc cette âme immense, infinie, immortelle, qui voit plus que l'étoile et qui vivra plus qu'elle. Ces sphères dont l'éther est le bouillonnement ont emprunté de Dieu leur premier mouvement. Avez-vous calculé parfois dans vos pensées la force de ce bras qui les a balancés? Vous ramassez souvent dans la fronde ou la main la noix du vieux noyer, le caillou du chemin, imprimant votre effort au poignet qui les lance. Vous mesurez, enfant, la force et la distance. L'une tombe à vos pieds, l'autre vole à 100 pas et vous dites: « Oh, ce bras est plus fort que mon bras !» Eh bien, si par leur jet vous comparez vos frondes, qu'est-ce donc que la main qui, lançant tous ces mondes dont l'esprit ne peut plus porter poids, comme le jardinier qui sème aux champs ses pois, les fait fendre le vide et tourner sur eux-mêmes, par l'élan primitif sorti du bras suprême? Aller et revenir, descendre et remonter, pendant des temps sans fin que lui seul sait compter, de l'espace et du poids des siècles se joue, et fait qu'au firmament ces mille chars sans roues sont portés sans ornières et tournent sans essieux. Courbons-nous, mes enfants, c'est la force de Dieu. Maintenant, cherchez-vous quelle est l'intelligence qui croise tous les fils de cette trame immense et les fait l'un vers l'autre à jamais graviter, sans que dans leur orbite ils aillent se heurter. Enfants, quand vous allez paître au loin vos génisses, au flanc de la montagne, au bord des précipices, et qu'assis sur un roc que vous avez sous vos pas, ce lac bleu comme un ciel qui se déploie en bas, vous voyez quelquefois l'essaim des blanches voiles disséminés sur l'eau comme au ciel les étoiles, de tous les points du lac se détacher des bords, sortir des golfes verts ou rentrer dans les ports, ou, se groupant en cercle avec la proue, écrire des évolutions que le regard admire. Et vous ne craignez pas, mes amis, cependant, que ces frêles esquifs, l'un l'autre s'abordant, se submergent sous l'onde ou que leurs blanches ailes se froissant dans leur vol, se déchirent entre elles. Car, quoique sous la voile on ne distingue rien dans cet éloignement, pourtant vous savez bien que de chaque nacelle un pêcheur tient la rame, que chacun des bateaux a son œil et son âme, qui gouverne à son gré sa course de la main, lui fait discerner et choisir son chemin. Eh bien, pour diriger sur l'eau cette famille, s'il faut une pensée à la frêle coquille, ces mondes que de Dieu les forces seules peuvent brider, n'en aurait-il pas une aussi pour se guider? Ils en ont, mes enfants. Dieu même est leur pilote. C'est lui qui, dans son ciel, a fait cingler leur flotte. Chacun de ses soleils, éclairé par son œil, sait sur ses océans son port ou son écueil. Tous ont reçu de lui le signal et la route pour paraître à son heure à leur point de sa voûte. L'œuvre de chaque globe à son appel monté est de glorifier sa sainte volonté, de suivre avec amour le sentier qu'il lui trace, et de refléter Dieu dans le temps et l'espace. Et tous, obéissant de rayon en rayon, se transmettent son ordre et font luire son nom. Et sa gloire en jaillit de système en système, et tout ce qu'il a fait lui rend gloire de même. Et sans exception, son œil monte et descend de l'orbe des soleils aux cheveux de l'enfant, et jusqu'au battement de l'insensible artère de l'insecte qui rampe à vos pieds sur la terre. Et ne vous troublez pas devant cette grandeur, ne craignez pas jamais que dans la profondeur des êtres, dont la foule obscurcit la paupière, l'ombre de ces grands corps vous cache sa lumière. Ne dites pas, enfant, comme d'autres ont dit, Dieu ne me connaît pas car je suis trop petit, dans sa création ma faiblesse me noie. Il voit trop du divers pour que son œil me voie. L'aigle de la montagne un jour dit au soleil, pourquoi luire plus bas que ce sommet vermeil? À quoi sert d'éclairer ces prés, ces gorges sombres, de salir tes rayons sur l'herbe dans ces ombres? La mousse imperceptible est indigne de toi. Oiseau, dit le soleil, viens et monte avec moi. L'aigle, avec le rayon s'élevant dans la nuit, vit la montagne fondre et baisser à sa vue. Et quand il eut atteint son horizon nouveau, à son œil confondu, tout parut de niveau. Eh bien, dit le soleil, tu vois, oiseau superbe, si pour moi la montagne est plus haute que l'herbe. Rien n'est grand ni petit devant mes yeux géants. La goutte d'eau me peint comme les océans. De tout ce qui me voit, je suis l'astre et la vie. Comme le cèdre altier, l'herbe me glorifie. J'y chauffe la fourmi, des nuits j'y bois les pleurs. Mon rayon s'y parfume, entraînant sur les fleurs. Et c'est ainsi que Dieu, qui seul est sa mesure, d'un œil pour tous égal, voit toute la nature. Chers enfants, bénissez, si votre cœur comprend, cet œil qui voit l'insecte et pour qui tout est grand. 21 novembre 1802. Je suis le seul pasteur de ce pays sauvage, pauvre troupeau sans guide. Un homme tout en âge est monté jusqu'ici d'un village lointain. Il a marché toujours depuis le grand matin. Dans un petit hameau du chemin d'Italie, une femme malade est, dit-il, recueillie. Jeune, belle et mourante, à ses derniers instants, elle demande un prêtre. Arriverai-je à temps? À Maltaverne, sur la route d'Italie, 22 novembre 1802. Une lampe éclairait seule la chambre obscure. Et l'ombre des rideaux me cachait la figure. Je ne distinguais rien dans cette obscurité qu'un front pâle et mourant sur l'oreille jetée et de longs cheveux blonds répandus en désordre que sur un sein deux mains d'albâtre semblaient tordre et qui, lorsque ses mains les laissaient s'épancher, roulaient des bords du lit jusque sur le plancher. Mon père, murmura tout bas la voix de femme. L'accent de cette voix alla jusqu'à mon âme. Je le sais, d'une voix quel vague souvenir y vibrait. Je ne pus qu'à demi retenir un cri que le respect refoula dans ma bouche. Et je m'assis tremblant au chevet de la couche. Mon père, pardonnez, reprit la même voix. Les chemins sont mauvais, les jours courts, les temps froids. Je vous ai fait venir de loin, bien loin peut-être, mais vous vous souvenez que votre divin maître, sans craindre de souiller ses pieds ni ses habits, rapportait sur son cou la moindre des brebis. Hélas, de sa bonté, nul ne fut moins digne. Pourtant, je fus marqué autrefois de son signe, et je veux, en quittant ce vallon de douleur, revenir et mourir au pied du bon pasteur. J'ai tant perdu sa voix et rejeté ses grâces qu'il a depuis longtemps abandonné mes traces. Mais avant de juger mes fautes dans la foi, comme homme, comme ami, mon père, écoutez-moi. Vous connaîtrez bientôt celle dont je m'accuse. Plus mes péchés sont grands, plus j'ai besoin d'excuses. Ma mère, qui mourut en me donnant le jour, me retira trop tôt l'ombre de son amour. Mon père, qui m'aimait avec trop de tendresse, ne me nourrit jusqu'à 15 ans que de caresses. J'étais libre avec lui, comme l'oiseau des champs, et toutes mes vertus n'étaient que mes penchants. L'âme va comme l'onde où sa pente l'incline. Je ne savais qu'aimer. À 15 ans, orpheline, dirais-je mon bonheur ou mon malheur, hélas? Fit descendre du ciel un ami sur mes pas, un jeune homme au front d'ange, et tel qu'un cœur de femme en apporte en laissant l'image dans son âme, tel que plus tard, hélas, son cœur en rêve en vain, fier, tendre à l'œil de flamme, au sourire divin, météore qui donne à l'âme un jour céleste, et de la vie après décolore le reste. En un désert 2 ans, le sort nous enferma. Je l'aimais sans penser que j'aimais. Il m'aima sans distinguer l'amour d'une amitié plus pure, car des habits trompeurs déguisaient ma figure, et notre grotte vit les amours innocents de ce ciel où l'amour n'a pas besoin d'essence. Il m'aima, pardonnez, ô mon père, à mes larmes. Par ma bouche expirante, oui, ce mot a des charmes. Il m'aima. Lui, moi, lui, oh, ce mot fait mon orgueil, il résonne encore doux au bord de mon cercueil. Quels que soient les remords dont ma vie est semée, Dieu me regardera, puisque j'en fus aimée.